Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mon Paris Santé. Aujourd'hui, émission spéciale Octobre Rose. Solidarité, prévention et engagement. Nous parlons du cancer du sein. Parlons prévention, le dépistage sauve des vies. En 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2,3 millions de femmes dans le monde ont été diagnostiquées d'un cancer du sein. En France, on recense plus de 61 000 cas nouveaux chaque année. Les hommes peuvent aussi être touchés, environ 1% des cas. Lorsqu'un cancer du sein est détecté tôt, les chances de guérison sont très élevées, jusqu'à 9 cas sur 10. Pour nous accompagner aujourd'hui, Stéphane Boza, entrepreneur culturel, photographe et réalisateur, créateur de Un message en rose, une mini-série qui donne la parole à des personnalités pour sensibiliser au dépistage. Nous avons également avec nous Christelle Youhou, connue sous le nom de la journaliste sur les réseaux sociaux. C'est une journaliste engagée qui relaye et met en lumière les histoires qui mobilisent. Nous aurons également avec nous, avec une intervention téléphonique, Alice et Stéphanie, créatrices de l'entreprise Les Pas de Chichi, initiative solidaire qui transforme les cheveux coupés en prothèses capillaires partielles pour accompagner les femmes pendant leur traitement. Le cancer du sein représente près d'un tiers des cancers chez les femmes. L'âge médian au diagnostic est de 64 ans. En France, 214 000 nouveaux cas en 2023, décès en 2022, 12 757. Au niveau international, environ 2,3 millions de nouveaux cas de femmes en 2022. Ce sont des chiffres qui proviennent de la Santé publique France. Alors, aujourd'hui, l'objectif est de retracer l'origine de l'engagement et comprendre la mécanique et la campagne de Un message en rose, qui parle de l'impact des images sur les réseaux. Monsieur Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Parlez-nous de l'origine de Un message en rose.
Déjà, je vous remercie de nous avoir invités sur Mon Paris FM.
T'en prie.
Message en rose, c'est un projet qui est né d'une histoire personnelle. Une personne très proche de moi a combattu cette maladie et que j'ai vu de très près, ce qui représente pour moi à quel point le diagnostic précoce peut sauver des vies et combien de femmes en souffrent en silence et faute d'informations et peur de dépistage. Et le mois d'octobre est un mois de sensibilisation au cancer du sein. Donc, j'ai voulu transformer cette émotion en engagement, un message en rose, qui est une campagne de sensibilisation audiovisuelle et humaine, portée par des visages et des voix, et surtout par des cœurs.
Merci. Christelle, vous voulez que je vous appelle Christelle ou la journaliste?
Déjà, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir, Stéphane et moi, sur Mon Paris FM. Je préfère la journaliste. Par contre, j'ai une petite précision. C'est la journaliste avec deux S à la fin. Voulu et c'est réfléchi.
Voulu, c'est réfléchi et c'est unique. Donc, on ne confond pas. Merci. Dites-moi, la journaliste, comment avez-vous travaillé pour rendre ces sujets accessibles et touchants?
Alors, il faut dire que j'ai été tout d'abord contactée par Stéphane, donc je remercie d'ailleurs. Je remercie d'ailleurs parce qu'il a, disons, m'accordé sa confiance. Et c'est vrai que le sujet du cancer du sein, Octobre Rose, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que j'ai eu l'occasion de faire aussi un stage dans une boîte qui produisait des perruques pour des femmes atteintes de cancer et d'alopécie. Donc, j'étais vraiment en contact avec ces femmes-là. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est non plus le fait qu'il y ait autant de femmes qui soient malades, mais c'est le fait qu'il y ait aussi des jeunes filles, des adolescentes et même des enfants qui soient touchés par cette maladie. Donc, ce temps que j'ai pu faire dans cette boîte m'a pu, disons, donner l'envie et l'accès et surtout, le, disons, comme je me répète, hein, cette envie de pouvoir parler de sensibilisation, de parler de, voilà, de prévention. Et pour moi, c'est super important. Donc, quand Stéphane m'a contacté pour ce projet, j'ai tout de suite accepté parce que c'est d'autant plus que c'est hyper important. Moi, je suis afro-italienne. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé. Donc, c'est vrai qu'en termes de Octobre Rose, que ça peut toucher l'Italie et la France, je suis beaucoup engagée sur ces deux pôles-là.
D'accord, merci. Donc, par rapport à ce que vous dites lors de vos observations, vous avez vu que ça pouvait toucher aussi des jeunes filles et pas seulement
des femmes en âge adulte.
Voilà. Mm-hmm. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'importance du dépistage précoce?
C'est important de se faire dépister. C'est important de se faire dépister parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'on n'est pas à l'abri de cette maladie. Cette maladie peut toucher à tout âge. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que c'est très important ce mois-ci de se faire dépister et surtout d'être à côté de ces personnes-là qui sont atteintes de la maladie. Parce que souvent, je dirais dans certains cas que j'ai pu observer, c'est des gens qui étaient un peu laissés seuls, abandonnés à elles-mêmes. Alors qu'il est important que l'entourage soit là, l'entourage soit présent. Et c'est vrai que quand c'est dans le cas d'une adolescente et tout, c'est encore d'autant plus grave parce que elle est un peu innocente, elle ne sait pas trop. Et là, du coup, elle est touchée par cette maladie qui est assez dévastatrice. J'ai pu observer aussi des cas de mort, d'adolescentes par rapport à cette maladie-là. C'est important d'entourer les malades, de les faire comprendre et surtout dans cette période difficile de se dire qu'on n'est pas seul.
Donc, est-ce que vous pensez que chez ce jeune public, le frein premier, c'est la communication?
Oui. Moi, je pense que c'est la communication. Faudrait pas qu'on se limite seulement à communiquer sur le cancer du sein pour des femmes en âge adulte, mais ça serait bien de faire vraiment de la prévention aussi pour les jeunes filles. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose dont je vois, même en regardant sur Octobre Rose, sur ce côté prévention-là, je ne vois pas ça vraiment. Donc, ça serait bien
d'intégrer les jeunes filles,
expliquer, faire des ateliers parce que tout le monde est touché quoi, à tout âge.
Et est-ce que vous avez pu voir si, dans toutes les femmes que vous avez pu rencontrer, au niveau du dépistage tardif pour certaines, si c'était une question de peur aussi?
Oui.
Peur d'aller se faire dépister.
Moi, je sais que j'ai eu quand même des proches qui ont été atteints de la maladie. Mais dans un premier temps, ils avaient vraiment peur de se faire dépister. Ils laissaient passer les années. Et malheureusement, quand ils passaient se faire dépister, la maladie était déjà en stade
avancé. Donc, et on le rappelle, plus le dépistage est fait, si la maladie est reconnue en avance, les taux de guérison sont très élevés.
De traiter.
Stéphane?
Et pour rajouter ce que Christelle est en train de dire, je peux dire que les femmes n'ont pas forcément peur d'aller se faire dépister. C'est parce qu'ils n'ont pas l'information déjà et il n'y a pas assez de sensibilisation sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est un sujet un peu encore plus tabou parce que quand on parle de palper les seins, fait ci, fait ça, tout ce qui concerne la femme est un peu très tabou. Donc, les gens sont un peu gênés à beaucoup parler de ce sujet. Et moi, en tant qu'un homme, j'ai envie de mettre un point sur ce problème parce que c'est le premier cancer dont les femmes souffrent énormément, qui est le cancer du sein. Et j'ai eu quelqu'un qui a eu cette maladie. Donc, aujourd'hui, c'est une cause très noble que je défends. Et dans notre campagne de sensibilisation aussi, on a milité à ce qu'on puisse dépister les femmes, pas seulement en octobre.
Oui.
Ce n'est pas seulement le mois d'octobre qu'on va concentrer uniquement pour le cancer du sein. Parce que ce n'est pas une maladie d'octobre. C'est une maladie de tous les ans, de toute une vie. Donc, si on peut le faire tout le temps, c'est très, très important. Donc, on a eu certaines personnes qui ont décidé de nous accompagner, qui sont dans le corps médical, qui vont nous aider à dépister des femmes dans des régions un peu plus reculées en Afrique. Parce que dans les capitales, les gens sont beaucoup au courant de ces genres de formations. S'ils ne le font pas, c'est par choix. Et non pas manque d'informations, ni pas manque de moyens. Mais nous, on veut donner cette chance aux gens qui sont dans les villages reculés, dans des régions plus reculées de nos capitales, d'aller se faire dépister, d'être proche de l'information, de s'il y a des ateliers, comme elle a si bien dit, d'organiser des ateliers de sensibilisation pour eux.
Donc, est-ce que votre projet vise particulièrement le continent africain ou il est ouvert
C'est un projet itinérant qui est ouvert sur le monde entier. Voilà pourquoi on a commencé par Paris. Et après, maintenant, on va descendre dans les autres pays, dans les autres villes et tout, pour continuer cette sensibilisation et cette campagne.
D'accord. Vous m'avez parlé de sensibilisation et de vous en tant qu'homme vis-à-vis de sa sensibilisation. On peut voir sur votre mini-série que dans le choix de vos témoins, il y a la présence de deux hommes. Est-ce que c'est un choix pour justement montrer que c'est un sujet qui touche tout le monde, hommes et femmes? Ou est-ce que ces hommes-là ont été touchés personnellement et donc leur témoignage...
Non, ce n'est pas des hommes qui ont été touchés par cette maladie, mais c'est juste pour montrer à ceux qui vont regarder ces mini-séries de vidéos que le cancer du sein touche tout le monde, les hommes comme les femmes. Donc, si les femmes prêtent leur voix à cette campagne, pourquoi pas aussi les hommes? Voilà pourquoi on a eu la chance d'avoir le chef étoilé Maurice Sako et l'humoriste congolais Emma Namisi et le docteur Aaron qui ont accepté de prêter leur visage, leur voix pour accompagner cette campagne.
Merci. Donc, dans vos témoignages, il y a d'autres personnalités qui prêtent leur voix, leur visage afin de sensibiliser et afin de soutenir votre projet. On rappelle que le lancement a été fait le 13 octobre. Donc, on n'a pas encore tous les noms, toutes les personnes. Enfin, moi, je les ai, mais vous ne les avez pas encore annoncés au public. Est-ce que vous voulez citer quelques noms ou bon, seulement déjà, ceux qui sont sortis?
Bon, déjà, on remercie toutes ces personnes qui ont accepté prêter leur visage, leur voix, leur temps, leur disponibilité pour soutenir cette cause qui touche le monde entier. Et pour commencer, on salue l'ancienne ministre chargée de l'égalité des femmes et des hommes, Elisabeth Moreno. On remercie l'ambassadrice du Bénin en France, Corinne Brunet. On remercie aussi Frédéric, qui est la directrice de Elle Magazine à Abidjan, qui a eu aussi des cancers. Qui a été malade des cancers. Donc, elle a prêté son visage, elle a prêté sa voix, elle a prêté son temps. On remercie Brigitte Ousou qui a prêté son temps, son visage, son temps, sa voix aussi. Et Christelle, la journaliste aussi. Donc on remercie toutes ces femmes qui ont accompagné cette cause et qui nous ont donné leur temps. C'est quelque chose de très précieux aujourd'hui, le temps et l'énergie, parce que le temps, l'énergie, ça se rattrape plus. Donc, s'ils ont eu à mettre à disponibilité tous ces moyens pour rendre belle cette campagne, on les remercie énormément.
Ben, on remercie toutes ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les démarches de cette mini-série qui suit un cheminement très, très particulier et répétitif pour chaque personne?
Comment on procède? Je vais commencer déjà par le contenu. Donc, en termes de contenu, on pose des questions sur l'importance de, enfin, Octobre Rose pour la personne. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'elles ont un message d'espoir? Bon, un message en rose. Et que serait le conseil qu'elles voudraient justement donner à ces personnes qui sont atteintes de la maladie? Maintenant, en termes de publication, comme on l'a dit, le lancement, il était le 13. Donc, vous découvrirez toutes les personnalités chaque jour sur les réseaux sociaux de Stéphane Bossard. Donc, chaque jour.
Bon.
J'ai dit ça comme ça.
Pour donner un peu plus de force à ce qu'elle dit, en fait, c'est un projet Message en rose. C'est des mini-séries de vidéos très courtes, tournées avec des personnalités inspirantes qui livrent un message de soutien, d'amour et de prévention. Chaque épisode a été soigneusement pensé pour toucher le public émotionnellement, sans tomber. La mise en scène, les couleurs, le ton, tout est symbolique. Et Le but, au fait, c'est que chacun répond à trois questions, mais de différentes façons. Uh-huh. Et les trois questions étaient, Octobre rose représente quoi pour vous? Pourquoi le dépistage est important selon eux? Et un message d'espoir en rose. Donc, cette campagne sera diffusée tout le mois d'octobre. Donc, on a lancé le teaser pour donner un peu un avant-goût, pour montrer un peu le visage de toutes ces personnalités qui ont prêté le temps à ce projet. Et maintenant, chaque jour, on diffuse la vidéo de chaque personne qui ont participé à cette campagne.
D'accord.
Et toutes ces vidéos sont publiées sur Atelier Bossa en collaboration avec moi.
Sur Instagram.
Instagram, Atelier Bossa. Et en collaboration avec Stéphane Bossa et toutes ces personnes qui sont dans les vidéos.
D'accord. Donc, on rappelle, ces vidéos, ce sont des vidéos sur format court, mini-série, oui, format court, mm-hmm. qui peuvent avoir un impact, vous pensez, plus percutant mm-hmm. sur le public.
Oui.
Est-ce que vous visez un public particulier, plus jeune, plus homme, femme?
Bon, nos cibles, c'est en général tout le monde, parce mm-hmm. que c'est tout le monde qui souffre de cette maladie. Et mm-hmm. plus les jeunes, ils sont au courant de ça, de plus en plus, ils sont en train de grandir, ils prennent conscience de la chose. Donc, on ne cible pas une masse de personnes ou un nombre défini de personnes. Notre cible est portée sur tout le monde.
D'accord. Ouais. Et est-ce que vous pensez que, donc là, à l'ère des réseaux sociaux, que l'image peut soigner? Comment la parole publique peut-elle agir sur l'espoir et la mobilisation des personnes qui ne sont pas forcément touchées? Parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui participent à cette sensibilisation, qui sont sensibles à cette sensibilisation. Mais généralement, c'est souvent des personnes qui ont eu un cas dans leur famille ou qui ont pu voir. Mais comment faire pour que tout le monde se sente concerné? Comment faire comprendre au monde mmh. qu'on nous sommes tous concernés par...
Mmh. Bah, déjà, vous venez de le dire, on est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, mmh. c'est clair que si on passe des messages forts comme ça sur les réseaux sociaux, ça prend. Déjà, ça c'est la première des choses. Et puis, ben, comme Stéphane l'a dit, on pose certaines questions. Chacun a sa façon de répondre. Donc, forcément, dans les réponses que vous verrez des ambassadeurs, des ambassadrices, des personnalités inspirantes, chacun a pour son compte. Donc, je pense que le fait de réunir toutes ces personnalités différentes, ici, de différents domaines, de mondes différents, peut parler à tout le monde. Donc, je pense que c'est vraiment... Enfin, nous pensons que c'est vraiment dans ce sens-là qu'on pourra toucher une grosse cible, que ça soit jeune, moins jeune, etc.
Et est-ce que vous, Christelle, ou vous, Stéphane, vous avez
La journaliste.
La journaliste avec mmh. deux S mmh. à la fin. Est-ce que vous avez déjà participé à d'autres projets similaires? Que ce soit des projets créés par vous ou par d'autres personnes, et dont vous avez vu l'impact et qui vous ont donné envie de continuer ce combat?
Alors moi, pour ma part, concernant Octobre Rose, je n'ai pas forcément fait ce format-là en prêtant ma voix. J'étais plutôt en back-office, mais c'est vrai que je contribuais énormément dans la création des conférences, des congrès de médecins pour parler de cet événement. Donc, c'était plus dans l'organisation, en bac. Et cette fois-ci, je prête ma voix, je me dévoile.
Vous êtes sur tous les fronts, là, sur
voilà,
ce projet.
Voilà, c'est ça.
Alors, juste avant de passer à la suite, est-ce que vous savez comment se faire dépister? Est-ce que vous connaissez les gestes? Je vous laisse y réfléchir et pendant ce temps-là, on va faire une courte pause musicale et ensuite on apprendra ensemble et on apprendra au public quels sont les bons gestes, pour déjà commencer à se dépister soi-même. Merci beaucoup.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde.
De retour sur Mon Paris Santé, je rappelle que nous avons avec nous nos deux invités, la journaliste et Stéphane. Vous êtes toujours avec moi ?
On est présent.
Alors, vous vous souvenez de la question posée juste avant notre petite pause ?
Oui.
Est-ce que vous avez la réponse ?
On va la faire ensemble.
On va la faire ensemble.
Moi, je pense que la première chose, c'est l'autopalpation,
très bien. Est-ce qu'on peut rappeler ce que l'autopalpation ?
C'est le fait de se palper.
C'est le fait de se palper soi-même.
Soi-même.
Voilà, donc c'est un petit geste, c'est un geste très important qui peut permettre pour certaines personnes donc de voir si il y a potentiellement un problème. Donc l'autopalpation se fait avec des gestes très simples. C'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, tout seul. Avant de vous indiquer les différents gestes de l'autopalpation, on rappelle que chaque poitrine est unique et que les anomalies pouvant révéler d'un cancer du sein ne sont pas des particularités propres à l'anatomie de chaque femme, mais bien des lésions évolutives. Aussi, donc, selon les poitrines, si votre poitrine présente naturellement des bosses, des taches ou vos seins sont asymétriques, ce ne sont pas forcément considérés comme des anomalies pouvant révéler d'un cancer du sein. Donc, l'autopalpation doit donc vous permettre de bien repérer les caractéristiques propres à chaque poitrine afin que chaque femme puisse déterminer ce qui est une anomalie chez elle ou non. L'autopalpation doit être réalisée en dehors de la période des menstruations afin que la poitrine présente sa taille et sa forme habituelle, car certaines femmes développent couramment des kystes mammaires durant la période de leurs règles, ce qui risque de fausser l'interprétation de l'autopalpation. On rappelle que ces kystes sont habituels et sans gravité, mais peuvent quand même être douloureux. Pour procéder à l'autopalpation de votre poitrine, vous devez vous tenir assise ou debout devant un miroir, le dos bien droit et les bras le long du corps pour commencer. Vous devez commencer par évaluer visuellement votre poitrine à la recherche de toute anomalie, rougeur, bosse,
taches, croûtes ou autre chose d'anormal chez vous, d'inhabituel. Votre posture face au miroir doit être suffisamment neutre pour vous permettre de les repérer simplement avec vos yeux. Ensuite, vous pouvez enchaîner les différentes postures symétriques pour observer le comportement de vos seins. Mains sur les hanches, poitrine penchée en avant, puis de chaque côté, bras levés, etc. Vos deux seins devraient bouger de la même façon. Après cet examen visuel, vous pouvez vous palper les seins l'un après l'autre à l'aide de vos mains. Donc la main opposée au sein que vous voulez palper. Main droite pour le sein gauche, main gauche pour le sein droit. Vous pouvez palper votre sein de haut en bas, de gauche à droite ou en partant du mamelon pour aller vers les côtés. L'essentiel, c'est de n'oublier aucune zone. Vous répétez plusieurs fois cette palpation en appuyant tout d'abord doucement et puis de plus en plus fort à la recherche d'anomalies superficielles et profondes. Notez que si vous ressentez des petites boules, c'est totalement normal. Ce sont des petites boules qui composent la glande mammaire. Elles sont homogènes et indolores. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Une fois les deux seins examinés, vous pouvez terminer votre autopalpation par la zone qui se trouve entre le sein et l'aisselle, du côté gauche et du côté droit. Et enfin, par l'aisselle elle-même. Un gonflement des ganglions peut être un signe d'alerte et vous inciter à aller consulter un professionnel de santé. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, nous allons avoir une intervention téléphonique de Alice et Stéphanie. Alice et Stéphanie sont les créatrices d'une entreprise qui s'appelle les Pachichi. Alors, c'est une entreprise qui fabrique des prothèses capillaires avec des bandeaux et avec les cheveux des personnes concernées. Donc, elles recueillent des cheveux, mais elles essayent, dès que c'est possible, dès que les personnes arrivent à se dépister assez tôt, recueillir leurs propres cheveux pour leur faire leur propre prothèse avec leurs propres cheveux.
Oui, allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alice ?
Oui, bonjour, c'est Alice. Et Stéphanie, juste à côté.
Alice ou Stéphanie, une sur deux, j'ai réussi. Vous allez bien ?
Très bien, merci, vous ?
Alors, oui, ça va. Alors, donc, je suis sur le plateau de Mon Paris Santé. Avec Stéphane et Christelle, les fondateurs d'une mini-série sur les réseaux sociaux afin de sensibiliser au dépistage et à la prévention au niveau du cancer du sein.
Ok.
Et,
bonjour.
On vous entend. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre projet d'aider les femmes à se sentir mieux dans leur transformation pendant leur traitement, pendant leur maladie est née.
Alors du coup, on propose en fait des prothèses capillaires partielles. C'est des prothèses capillaires qui sont faites avec les propres cheveux des clientes. C'est-à-dire que quand elles apprennent qu'elles ont une chimiothérapie, le but c'est de récupérer leurs cheveux avant qu'ils tombent et d'en faire une couronne, donc un bandeau de cheveux qu'elles mettront avec un turban. Comme ça, elles gardent leurs cheveux et leur identité. Et en fait, l'histoire elle est venue de Stéphanie, qui vient d'intervenir, qui a eu un double cancer du sein en octobre 2020. Et à la base, elle a créé ça pour elle. Et elle a récupéré ses cheveux en tant qu'ancienne coiffeuse et perruquière. Elle s'est dit qu'elle allait bien pouvoir faire quelque chose avec cette matière première et que c'était trop dommage de la jeter. Donc, elle a fait un premier bandeau pour elle. Et moi, donc Alice, qui suis sa voisine, sa copine, enfin bref, on est amies, quoi. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit que c'était génial et qu'il fallait vraiment pouvoir proposer ça à toutes les femmes qui avaient le même traitement, en fait. De pouvoir garder ses cheveux. Et donc, on a travaillé dessus pendant plus d'un an et notre site internet est sorti en juin 2022.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous transformez donc ces cheveux en prothèses ? Vous passez par quelle Est-ce que vous passez par une entreprise privée ? Est-ce que c'est vraiment vous-même qui les fabriquez ?
Alors, c'est simple, on est deux dans l'entreprise.
Ah, donc, ouais. Donc c'est vous.
Donc, c'est nous. C'est, en fait, moi, je suis coiffeuse et perruquière. Donc, c'est moi qui fabrique, en fait, donc à l'atelier.
Donc là, c'est Stéphanie. Hein.
Ouais, moi, c'est Stéphanie, ouais. C'est vrai qu'à la radio, c'est compliqué.
Ah, je précise.
Après, on travaille, donc là, c'est Alice. On travaille aussi avec des couturières indépendantes, mais qui nous aident plutôt à faire la couture des turbans. Mais pour vraiment ce qui est la prothèse, c'est Stéphanie qui la fabrique à l'atelier, donc en Vendée.
D'accord. Et pourquoi fabriquer des prothèses avec un format comme, donc, comme le vôtre, avec un bandeau, et non pas des perruques comme on peut le voir plus généralement?
Alors, tout simplement, il y a plusieurs critères. C'est-à-dire que l'avantage du bandeau, c'est que c'est rapide à faire. Et que, vu qu'on travaille avec les cheveux de la cliente, le but, c'est qu'elle se coupe les cheveux juste avant sa chimio. Et puis, comme ça, avant que ses cheveux tombent, donc ça demande entre 11 et 15 jours à peu près, avant la chute des cheveux, après la première injection, eh bien, ça lui permet de récupérer ses cheveux avant qu'ils soient complètement tombés. Donc déjà, c'est la première, la première idée. Et puis après, nous, on voulait un produit qui soit accessible, en fait, à tout le monde. Et là, en plus, avec la prise en charge sécu, maintenant, c'est le cas. Et l'avantage du bandeau, vu que c'est très rapide en fabrication française, du coup, c'est accessible. Alors qu'une perruque, ça ne l'aurait pas été. Et puis, en plus, au niveau des prises de mesure, ça aurait été beaucoup plus compliqué de le faire à distance.
Et puis aussi, parce que même si on récupère tous les cheveux de la personne, on n'aura jamais assez de matière pour faire toute la tête et donc une perruque entière.
Voilà. Voilà les trois choses. Bah, à peu près. Il y en aurait plein d'autres, mais voilà. À peu près.
Alors là, vous m'expliquez donc que vous récupérez les cheveux des personnes concernées. Comment faites-vous si la personne a déjà perdu ses cheveux ou si elle vous a connu trop tard, donc pour pouvoir vous donner ses propres cheveux? Est-ce qu'elle peut quand même faire appel à vous?
Oui, tout à fait. Elle peut quand même nous contacter. Nous, on récupère beaucoup de dons de cheveux et on permet du coup aux femmes de pouvoir quand même faire un pas de chichi avec des cheveux en don. Donc, bien sûr, pour ça, il faut qu'elle nous envoie des photos d'elle quand elle a encore ses cheveux pour qu'on puisse voir la couleur, la texture. Et puis, on échange beaucoup avec elle par message et par téléphone. On s'envoie des photos pour valider le cheveu que nous on a trouvé pour elle, et si elle est d'accord, et ben du coup on lui fait un bandeau avec des dons de cheveux. Et puis après, il y a aussi des solutions où parfois il y a l'entourage, il y a les enfants ou les sœurs ou les mamans, enfin voilà, il y a toute une belle solidarité qui peut se mettre en place aussi autour de cette envie d'avoir un pas de chichi. Et on peut aussi mettre les cheveux, voilà, de la famille ou des amis dans le pas de chichi.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire les conditions pour faire un don de cheveux?
Les conditions pour faire un don de cheveux, donc il faudrait que les cheveux soient propres, secs, et il faut au moins 20 cm de longueur et que les pointes ne soient pas trop abîmées. Si c'est trop abîmé, on ne peut pas trop s'en servir. Hein. C'est vrai que quand il y a plein de fourches, ce n'est pas terrible. Et après, il faut les attacher en petites mèches. Avec une petite couette, un petit élastique, pas forcément de tresse parce qu'on n'arrive pas à voir la texture du cheveu, sinon on est obligé de défaire la tresse, puis parfois ça peut un peu tricher sur la texture. Donc un petit élastique, on coupe, et puis là après vous mettez ça dans une petite poche, et puis un petit sac, une petite enveloppe, et puis vous nous envoyez ça directement à l'atelier. Donc il y a toutes les indications sur notre site internet, dans le blog. Il y a tout un article sur le don de cheveux qui explique tout ça. Et on propose aussi aux gens de remplir un formulaire et de nous donner leur mail. Comme ça, nous, on prend le temps de répondre à tout le monde pour les remercier pour leurs gestes.
Merci. Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des partenariats avec les hôpitaux, par exemple, les associations ou autre?
Alors, on n'a pas de partenariat avec les hôpitaux. Les hôpitaux nous connaissent. Nous, on fait en sorte de se faire connaître dans les hôpitaux. Et puis, ceux qui croient vraiment en notre projet parlent de nous. Et voilà. Après, on est plutôt en partenariat, entre guillemets, avec des associations qui ont envie d'aider les femmes à se sentir belles et à garder leurs cheveux. Donc, elles ont un petit budget qui est dédié au pachichi, et quand certaines femmes sont vraiment en détresse financière, elles permettent à ces femmes-là de prendre en charge le reste à charge de la sécu. En fait, c'est l'association qui la finance.
Ah, très bien. Donc, est-ce que vous pouvez, donc là, vous avez parlé du reste à charge, de la sécurité sociale. Donc, un des points forts que vous avez, c'est que ça peut être pris en charge par la sécurité sociale.
Voilà. Tout à fait. Donc, un pas de chichi, ça a un coût unique de 500 euros. Et sur les 500 euros, il y a 250 euros qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc ça, c'est déjà une grande victoire pour nous. Et puis après, donc, il reste 250 euros à financer. Ça, en fonction des mutuelles et des contrats, ça peut être pris en charge. Et puis du coup, ça peut aussi être pris en charge par des associations si vraiment ça fonctionne pas avec les mutuelles, quoi.
D'accord, bah ça c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Je pense que c'était un frein pour beaucoup de personnes.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que depuis le mois de novembre 2024, depuis qu'on a l'agrément CPAM, on est vraiment super contente parce que ça permet vraiment à des femmes qui n'ont pas forcément les moyens. On sait très bien que dans ces moments-là, voilà, on a moins de ressources financières, c'est pas évident. Donc on est vraiment très contente pour elles de pouvoir avoir cette prise en charge.
D'accord. Stéphanie, j'ai une question pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que lors de vos deux diagnostics, quand vous avez découvert que vous étiez atteinte du cancer du sein, est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert toute seule avec autopalpation ou est-ce que c'est venu tardivement?
Alors du coup, c'est un peu plus complexe que ça, mais pour faire court, en fait, moi j'ai fait une grossesse extra-utérine avec un stérilet. Et du coup, j'étais en urgence à l'hôpital. Et en fait, ben forcément, on a les seins enceintes qui sont beaucoup plus gonflés. Et j'avais découvert une boule sur le sein droit. Et l'avantage, c'est que j'étais pendant le Covid, en fait. Hein, c'est que j'avais demandé une mammographie, mais je l'avais eue, j'avais le rendez-vous un an après, en fait. Oh. Et là, ce passage de force à l'hôpital m'a permis d'avoir la mammographie beaucoup plus tôt. Et donc, 3 semaines après. Et en fait, ça a été diagnostiqué à ce moment-là.
D'accord.
Voilà. Ah,
vous avez eu un peu un sacré
coup. J'ai eu de la chance.
Oui. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver, votre site internet, vos réseaux, rappeler comment faire un don, que ça soit, donc, est-ce que vous prenez que des dons de cheveux, des dons financiers, par exemple? Voilà. Tout ce qui peut vous aider et aider les femmes.
Oui, bien sûr. Alors du coup, vous pouvez nous retrouver donc, sur lespatchichi.fr. Il y a notre site internet. On est aussi sur les réseaux. On est sur Facebook, sur Instagram. On a une page LinkedIn également. Concernant le don de cheveux, donc pareil, tout est sur notre site internet au niveau du blog. On a un article qui explique vraiment le don de cheveux. Donc, le don de cheveux, c'est 20 cm. Et puis, nous, on les récupère et ça permet de compléter des pâtes chichi pour des femmes qui n'ont pas assez de matière. Et puis, vous m'avez dit quoi ? Je me souviens plus de tout ce qu'on doit dire.
Est-ce que vous demandez des dons financiers vu que vous êtes toute seule à avoir créé ce projet ?
Alors non, on ne peut pas. En tant que société, on n'a pas le droit d'avoir des dons financiers. On accepte les dons de cheveux, mais pas les dons financiers. Par contre, c'est vrai que nous, ce qui est important pour nous, c'est que les gens, que les femmes en tout cas, connaissent la solution des pâtes chichi. Parce que souvent, quand on apprend qu'on est malade, ça va très, très vite. Et on se pose plein de questions, il y a plein de choses à voir. Alors que c'est vrai que si on sait qu'on a cette possibilité de pouvoir garder ses cheveux malgré la maladie, eh bien, voilà, ça enlève un poids et un stress à ce moment-là. Et donc, parler de nous, communiquer sur nous, voilà, savoir que cette solution existe, c'est le plus important.
D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre initiative.
Merci beaucoup à vous,
je vous en prie.
De nous avoir permis de pouvoir présenter les pâtes chichi avec vous.
Avec plaisir, on fait en sorte que le plus de monde possible soit au courant pour que le plus de femmes puissent en bénéficier.
Super, merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir. Merci à Alice et Stéphanie pour leur intervention. On revient après une courte pause pour la suite de l'émission.
Dans les yeux. faut-il se dire où mettre nos cœurs? Si près les uns des autres, elle pourrait être la nôtre.
On a tous une mère, une amie, une sœur.
C'est l'automne, on est là, et le ruban sait pourquoi. On a tous une mère, une âme ou une sœur. Faut-il encore une fois recompter sur ses doigts ou courir sans émoi? L'euro, c'est par là. Faut-il encore une fois remarcher sur nos pas? Attendre encore, je veux pas. L'euro, c'est par là.
Retour sur Mon Paris Santé, toujours avec nos invités. Juste avant notre petite pause, nous avions au téléphone Alice et Stéphanie qui nous présentaient leur entreprise Les Pachichi, entreprise qui fabrique des bandeaux avec les cheveux des personnes atteintes de cancer du sein, qui leur permet de récupérer leurs propres cheveux et de fabriquer avec des prothèses capillaires. Mais cette entreprise est ouverte à toutes les personnes car ils reçoivent des dons de cheveux qu'ils peuvent faire profiter aux autres femmes qui ont eu l'information tard. La journaliste, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu connaissais déjà?
Non, ce concept, je ne connaissais pas forcément. D'ailleurs, je tiens à féliciter les deux dames pour cette belle initiative. Et je pense que ce concept de créer des perruques avec des bandeaux et surtout avec les cheveux, les propres cheveux des personnes qui sont atteintes de la maladie, ça a une autre patte psychologique. Moi, je connais des organismes qui font des perruques pour des personnes atteintes de la maladie, mais ce n'est pas forcément avec les cheveux des malades. Donc, je pense que c'est une très, très bonne initiative parce que ça permet aussi, au niveau psychologique, tu te dis, bon, c'est vrai que je perds mes cheveux, mais en même temps, on me confectionne quelque chose avec quelque chose qui m'appartient, c'est-à-dire mes cheveux. Donc, je pense que c'est une initiative à saluer. Donc, voilà.
Bravo Alice et Stéphanie, créatrices de Les Pachichi. Et oui, cette importance de récupérer ses propres cheveux psychologiquement, ça doit avoir un autre impact que de simplement mettre une perruque.
Une perruque, voilà.
Voilà, on perde quelque chose, mais on le garde quand même avec nous.
On le garde quand même et tu sens que c'est à moi. Donc, je trouve que c'est bien. Au niveau psychologie, ça peut aider. C'est vrai que tu perds tes cheveux, c'est pas l'idéal, mais au moins je sais que j'ai une perruque qui m'est propre avec mes cheveux et ça a vraiment un autre impact par rapport à l'achat d'une perruque où tu te dis j'ai perdu mes cheveux mais je dois m'acheter une perruque. C'est un peu,
voilà. Ça peut être plus facile aussi de se dire bon, je vais couper mes cheveux pour me créer une perruque plutôt que de les voir tomber.
Et en plus, le côté pratique du bandeau aussi, je trouve que c'est aussi bien parce que c'est plus pratique pour la porter, pour l'enlever. Avec un bandeau, ça se passe mieux, je pense.
Oui, et qu'on peut modifier normalement le bandeau. Stéphane, que pensez-vous des Pachichi?
Moi, je pense que c'est un projet noble à saluer, d'encourager ces deux femmes dans ce qu'elles font. Il est soutenu parce que toutes les femmes n'aiment pas utiliser des perruques. Donc, elles ont eu à trouver une solution très idéale et très adéquate pour toute personne qui n'utilise pas des perruques, d'utiliser leurs propres cheveux. Bon, c'est un projet à saluer et moi, je le souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance dans le projet.
Merci, merci pour elle. J'ai quelques questions pour vous avant de clôturer cette émission. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous, pour tous les deux, Stéphane, okay. Qu'est-ce que vous conseilleriez à une amie qui a peur de la mammographie, qui a peur d'aller se faire dépister?
Déjà, c'est de connaître ses peurs. Pourquoi elle a peur? Si ça a peur, c'est déjà pas... Si c'est la honte, on doit savoir déjà déterminer ce qui la pousse à avoir peur. Bon, c'est de là qu'on peut attaquer le sujet. Mais se faire dépister, moi, je ne pense pas que c'est une question de peur ni de honte. Parce qu'aujourd'hui, se dépister, c'est sauver une vie. C'est sauver ta vie. Donc, pourquoi perdre une vie à cause de la peur ou à cause de la honte? Non, je ne trouve pas ça juste.
La journaliste?
Je suis d'avis avec ce que Stéphane dit. Parce que, c'est un geste, pour moi, c'est quand même un devoir, dans le sens où, si tu tiens vraiment à ta santé, faut vraiment appliquer des gestes qui te poussent à voir un bilan complet de ta santé. Ça y va de la responsabilité de chacun. Donc, et puis de se dire que, voilà, la vie, on a beaucoup d'étapes dans la vie. Et c'est vrai que même si on peut t'annoncer une maladie grave ou quelque chose de grave, c'est sûr qu'avec la force de résilience, l'envie d'y aller, on peut surmonter ça. Parce qu'il faut aussi le préciser que le cancer, il y a beaucoup de cas de maladies, mais il y a aussi des guérisons. Ça, c'est quelque chose de...
Il ne faut pas oublier.
Il y a des femmes qui sortent de ça. Donc, faut pas avoir peur. Faut se dire, j'y vais. Voilà, quel que soit le résultat, j'y vais. Et même si on m'annonce quelque chose de triste, je suis assez forte, assez résiliente pour m'en sortir. Donc, moi, c'est vraiment ce côté-là.
D'ailleurs, dans votre teaser, votre première invitée répond à cette question, une réponse très pertinente. Donc, je laisse les auditeurs, je les encourage à aller voir cette vidéo. J'ai beaucoup aimé la réponse qui était vraiment très... elle était claire, nette et c'était vraiment percutant. C'est une phrase, mais elle m'a... ouais, c'est vrai. Donc, je vous invite à aller voir à ce teaser. Deuxième question, est-il dangereux de se palper soi-même?
Non, je ne pense pas que c'est dangereux. Si vous connaissez les gestes qu'il faut pour se palper, je pense que l'auto-palpation est très importante.
Est-ce que vous avez parlé en début d'émission de tabous au niveau de pas mal de sujets qui peuvent concerner les femmes, et notamment celui-ci où ça touche à certaines parties au sein des femmes? Comment aborder ce sujet avec des proches réticents ou qui sont dans cette mentalité où, corps de la femme, c'est tabou, on n'en parle pas, ou ça ne me concerne pas, je ne parle pas de ce sujet avec toi. Comment vous, en tant qu'homme, vous évoquez le sujet?
Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet très sensible et ce n'est pas quelque chose, il faut y aller avec force. Il faut y aller avec douceur, calme, beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Donc, je pense que c'est un sujet tabou, mais... Il y a des manières pour aborder ce sujet pour que celle ou celui en face de toi peut le prendre de façon très intéressante et ne pas avoir peur ni honte de le faire avec quoi. Et comme les docteurs le disent souvent, il faut que les femmes demandent à leur conjoint de palper. Donc voilà quoi.
De palper leur partenaire.
Voilà, c'est
ça. Faites plus sympa. est-ce que vous connaissez les ressources, les partenaires, les endroits où les personnes peuvent aller justement se faire dépister en France?
Bon, aujourd'hui, moi, j'ai vu sur Doctolib qu'il y a des trucs, Doctolib du moins, qu'il y a des trucs qui se passent là-bas. Donc, toute femme résidant en Europe ou en France peut prendre des rendez-vous sur Doctolib pour aller se faire dépister.
Chez un généraliste?
Voilà.
Généraliste, centre de dépistage aussi.
Voilà, ouais. Et y a, on rappelle qu'il y a plusieurs organismes qui existent. Il y a l'Institut national du cancer. Il y a, on peut aller sur amélie.fr pour trouver plusieurs professionnels de santé. On peut aller, il y a plusieurs associations qui existent aussi pour, en plus de faire des dépistages, aider, sensibiliser, répondre aux questions qu'on, qu'on se pose et qu'on n'ose pas poser à nos proches, comme, comme la Ligue contre le cancer, Ruban Rose, qui est un centre de lutte contre les cancers aussi. Donc voilà, il existe vraiment, en tout cas en France, plusieurs lieux, plusieurs organismes où on peut y aller gratuitement, sans tabou, sans gêne, en, en, en toute sécurité, pour répondre à toutes nos questions. Alors, avant de clôturer cette émission, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver tous les deux sur les réseaux, où est-ce qu'on peut accéder à votre mini-série? Où est-ce qu'on peut la regarder?
Pour toute personne qui souhaite participer à notre campagne et soutenir cette sensibilisation, la première geste, je pense que c'est de suivre et partager sur Atelier Boussa, l'Instagram, Facebook, LinkedIn, et regarder les 15 ou 16 vidéos des personnalités, puis partager depuis leur compte. Utiliser un message en rouge, en hashtag et octobre rose. Chaque partage amplifie le message. Chaque relais peut sauver une vie. Le deuxième, c'est devenir un relais. Donc, si quelqu'un il est influenceur, journaliste, entrepreneur, le fait de republier nos contenus sur ces plateformes, ça donne de la force au projet et ça permet de toucher beaucoup plus de monde à aller se faire dépister. Parce que le truc le plus important pour nous dans ce projet, ce n'est pas forcément la campagne, mais c'est de sauver des vies. Et sauver des vies, ce n'est pas une campagne de plus, c'est le geste. C'est dépister, prendre rendez-vous, aller faire de la mammographie, c'est, ça sera notre victoire. Nous.
Est-ce que vous pouvez me répéter la, la dernière phrase?
Elle a aimé la phrase.
Qui
est...
oui. Alors.
Je répète.
Le plus important.
Le plus important,
c'est pas forcément d'aller partager ou regarder, mais c'est de sauver des vies. Et avoir des gens, femmes comme hommes, prendre des rendez-vous pour faire de la mammographie, c'est une belle victoire pour notre campagne et notre sensibilisation.
Merci, merci beaucoup. Madame?
Alors, du coup, un thème de relais, etc. Donc, je ne vais pas rajouter tout ce que Stéphane a dit parce qu'il a été très complet avec une phrase très inspirante que nous avons aimée, d'ailleurs. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que aux femmes, c'est allez-y, faites-vous dépister. C'est important.
Ouais. Voilà, c'est n'ayez très pas important. Peur, c'est
n'ayez
gratuit,
pas peur, ça
prend quelques pas.
Temps. Et faites-vous entourer, c'est important aussi. Avoir un bon entourage, ça aide. Et je pense que l'objectif de la campagne, comme Stéphane a dit, c'est qu'au-delà de toutes ces personnalités influentes, c'est vraiment de passer ce message et de se dire que c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et il faut vraiment y mettre vraiment du sérieux. Et voilà, ça y va de la santé de tous.
Merci, merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de notre émission. Je tiens à vous remercier de votre présence, à remercier Alice et Stéphanie pour leur intervention, remercier Jason à la régie. Et enfin, je voudrais rappeler que se dépister, c'est très important, s'informer, s'entourer des bonnes personnes, se soutenir, soutenir les personnes qui nous entourent, rappeler que cette lutte n'est pas seulement pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est un mois où on va sensibiliser beaucoup plus à cette maladie. Mais les maladies, c'est toute l'année. Donc, on n'est pas actif seulement un mois sur 12. On le reste toute l'année. Et chaque geste, chaque jour compte et peut être important. Est-ce que vous pouvez, pour finir cette émission, me donner un message en rose, s'il vous plaît?
Le message en rose... J'aimerais donner une femme qui a peut-être peur de se faire dépister ou une femme qui a eu un résultat assez triste. c'est que vous êtes, voilà, moi je m'adresse à tout le monde, femme ou homme, peu importe, vous êtes fort, vous êtes des personnalités fortes, des personnalités résilientes, et que dans la vie, on peut gravir les échelons, et dans la vie, on peut, voilà, on peut, comment dire, on peut braver les obstacles pour aller de l'avant. C'est pas la fin d'une vie, c'est le début d'un combat. Et au bout du combat, au bout de l'effort, il y a toujours une victoire. Donc voilà, soyez forts, soyez résilients, et puis c'est tout. C'est mon message en rose.
C'est ton message en rose, merci beaucoup.
Moi, mon message en rose, c'est pas seulement la campagne et la sensibilisation, c'est de prendre le rendez-vous, aller faire la mammographie, détectez-vous tôt, c'est de sauver une vie sur 9, sur 10. Et pour finir, on remercie tous ceux qui nous ont accompagnés sur ce beau projet, Thierry Koumagnon, qui est notre consultant. Coucou à toi. On remercie la journaliste, on remercie l'EMFI, et on remercie ici aussi toutes ces personnalités qui ont prêté leur temps, leur image et leur voix pour ce beau projet. Octobre Rose, un message en rose.
Merci beaucoup. Moi, mon message en rose, ce serait de... On répète souvent, il ne faut pas avoir peur d'aller se faire dépister, il ne faut pas avoir peur de poser des questions, mais on n'oublie pas qu'avoir peur, c'est quelque chose de totalement normal. Donc, il faut avoir le courage, il faut être bien entouré pour pouvoir le faire. Donc, si vous avez peur, c'est normal, c'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas quelque chose... C'est un nouveau combat, un combat que vous ne devez pas mener seul. Donc, soyez bien entouré. Et prenez soin de vous, allez vous faire dépister, et on se retrouve une prochaine fois pour Mon Paris Santé, pour un nouveau thème. Merci beaucoup.
Merci à Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Mon Paris FM.